puisse réduire pour votre pouvoir financier, même si je compte dans mon entourage des financiers qui m'ont appris qu'ils seraient très désireux de participer éventuellement à l'évolution de la loi. La première chose que je veux dire, c'est que je crois très profondément que dans une société évoluée, il existe deux types d'individus. D'une part, ce que j'appelle les créatifs, qui à eux tout seuls représentent 99,9% de la population, qui se reconnaissent au fait qu'ils ont le sourire accroché aux lèvres, qu'ils se reconnaissent au travers de leur désir de bien faire, d'assumer leur métier, de développer leur savoir-faire, et par voie de conséquence de participer à l'élection d'une civilisation. La deuxième catégorie d'individus, et ceux-là, ils ne sont pas nombreux de tout, ils sont que trois. Il y en a un, il est assis sur son tabouret, c'est le représentant du propriétaire, et le fait que ce soit la République ou que ce soit Dieu n'a aucune espèce d'importance, il est comptable. Il juge de ce qui est juteux. Il le fait savoir à celui qui est à côté, qui est le juge, qui est un personnage en grand péril permanent parce qu'en fait le bien et le mal ça change tout le temps et que les lois sont toujours en retard par rapport aux habitudes. Enfin, le juge est là pour dire quelle est l'application du bien et du mal. Et ils sont tous les deux aidés et assistés par des auxiliaires de justice que j'ai représentés comme des appuis personnels dans lesquels vous reconnaîtrez les flics. À ce stade, j'entends des gens nous dire que Alto fait de la polémique, Alto est caricatural. Alors c'est vrai, j'assume, je suis totalement de parti pris, je fais de la politique, et je considère que la caricature est un excellent moyen de faire avancer la civilisation. Et en ce qui me concerne, avec une petite dose du goût, je considère qu'il faut faire de la caricature pour arriver à faire progresser la vérité d'une façon ou d'une autre. Je reviens à mon sujet. Nous avons donc deux types d'individus dans une société normalement développée. Et nous avons deux situations possibles. La première, c'est que les trois personnages que j'ai présentés en dernier sont aux manettes. La société est en ordre dans ces cas-là, mais elle est en décadence. Ou bien, ce sont les autres, les créatifs, qui sont aux manettes. À ce moment-là, la société est dite en renaissance, mais c'est un joyeux bordel. Une fois que j'ai dit ça, je sens pointer en moi un certain nombre de symptômes qui me font dire que je sens les prémices d'une renaissance. Je veux tout de suite préciser pour ceux qui se feraient des illusions, il s'agit de petites renaissances, comme ces petites éclaircies qui succèdent à la grisaille. La petite renaissance, c'est quelque chose qui arrive presque tous les 8 jours, et ce n'est pas la grande renaissance. Si nous avons élu François en mai, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas François Ier. Nous sommes donc en renaissance, et quand nous sommes en renaissance, il convient, en matière d'urbanisme, d'écouter ce que disent les créatifs. Et là, je vous fais bien le dire, ça va être facile parce que c'est carrément inaudible. Les créatifs ne sont pas avares d'expression où, en fait, ils réclament quelque chose et son contraire. Et ils ont bien raison parce que c'est quand on confronte quelque chose et son contraire qu'on a une quelconque chance d'aboutir à une amélioration. Mais ceci, dans le désordre. Alors, en marque, dit Granville, cela veut dire pour les créatifs qu'on ne veut plus se retrouver dans un embouteillage avec de l'un ou ailleurs, cela veut dire que l'on veut vit au calme et de l'obscurité, que l'on veut le moins de bruit possible, mais en même temps on voudrait bien que le travail soit sur place. Mais on voit toute une série de choses dont il faut bien extraire le message principal, c'est-à-dire qu'il est grand temps, si la ville veut se régénérer sur elle-même, d'abandonner ce que l'on a appelé le zonage. Je vais faire un tout petit peu d'histoire, je serai relativement rapide. Le zonage est quelque chose qui découle de la Charte d'Athènes, ça date de 1936, ça peut s'expliquer pour des raisons hygiénistes post-19e siècle. Ça consiste à dire que pour bien vivre, l'homme doit assumer sa physiologie avec bien dormir dans des endroits où il y a un agent au fil du carré. Bien travailler dans des endroits qui sont conformes à ce que son patron veut quitter comme endroit. Et se recréer. La Charte d'Athènes dit se recréer quand l'homme a le temps de se recréer, lorsqu'il vient de l'une des centres urbains. Ce temps du zonage aboutit en fait à une ségrégation du sol et comporte en lui-même tous les éléments du rejet de l'accueil de la ville. Donc, existe le zonage, en tout cas, ça c'est ce que j'appelle le PME, et ça veut dire que, pour lui, il avait un peu usurpé cette charte d'Athènes, se retrouve provisoirement désavoué. Il faut aussi écouter ce que disent de plus positif les créatifs. C'est vivre en ville, c'est assumer la possibilité de vivre à deux échelles différentes. On a envie de vivre en ville, à la fois dans le contexte d'une proximité humaine que l'on pourrait situer dans un cercle qui n'excéderait pas 500 mètres, donc on marche à pied, et en même temps faire partie d'une communauté beaucoup plus vaste qui est capable de vous apporter les équipements et tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement intellectuel, la vie, les grands théâtres, les grands équipements, l'équipement sportif, culturel, etc. Voilà ce que nous disent les créatifs, mais il faut dire qu'ils le disent dans un tel cacophonie que ils sont quasiment inaudibles, surtout que personne ne fait vraiment l'effort de faire attention à ce qu'ils disent. Et j'ai un principe que je m'applique à moi-même, c'est qu'à partir du moment où on ne sait plus dire la ville, il faut la décider. Donc je vais vous entraîner dans une troisième petite parenthèse, qui est le bord de Strasbourg en 2040. En 2040, le bord de Strasbourg a fait une légère croissance. Il est aux environs de 11 millions, 12 millions de tonnes. Il est toujours dans le bord d'or, puisque c'est celui qui nous intéresse, autour du bassin du commerce et de l'industrie, organisé en fonction du trafic prioritaire de cette zone, qui est le trafic céréalier. Il est toujours organisé avec les conteneurs. En 2040, on a inventé un grand portique que vous voyez sur la partie gauche de l'écran et qui enjambe le canal. Un grand portique est un outil pour charger les bords de conteneurs de façon plus efficace. On en discutera avec des spécialistes, mais actuellement, avec un portique, on charge un bateau, voire deux dans le meilleur des cas. Ici, on a un portique très important qui permet de charger jusqu'à 12 bateaux en même temps. C'est très important puisqu'il y a un trafic qui s'est accéléré en 2040 en direction, non pas des bords en lourd, mais en direction des fréquences, puisque Strasbourg, grâce à une navette ferroviaire améliorée avec le Havre, est devenu le principal fournisseur et exportateur de bananes des Antilles en direction de l'Allemagne. Ce qui n'a pas changé en 40 par rapport à aujourd'hui, c'est que les principaux coupeurs de bananes en Alsace sont les Allemands. Donc on est particulièrement bien placé pour les leur vendre. Ce le monde antique est donc un outil portuaire, majestueux, rationnel, voilà. Seulement, le dessus de ce monde antique, c'est une vaste esplanade de 700 mètres de long par 100 mètres de large. Et comme la mixité urbaine en 2040 est enfin passée dans les mœurs, on a sur ce grand portique toute une série de choses qui peuvent se faire. Vous voyez d'autre part qu'il y a cette montée en altitude, puisque le dessus du grand portique se trouve aux environs de 15 mètres, et à cet endroit-là, on a expérimenté un quartier neuf, tu passes la suivante, qui joue sur la superposition. Ce sont des zones de conteneurs sur lesquelles il y a de l'habitat au-dessus. Tous les problèmes pompiers de nuisance sont totalement respectés. Et on a là les 6 hectares de bananes réfrigérées que l'on va fourguer aux allants. Au-dessus, c'est un endroit tout à fait disponible pour être au soleil, pour être dans un paysage d'autant plus intéressant qu'on peut percer ces entrepôts de canyons qui servent à la lumière, qui servent à la ventilation, etc. Donc, on a ce grand portique et le dessus des choses, la suivante, s'il te plaît, ça nous donne une vie à proximité du grand portique que vous voyez ici. Ben, le plaisir qu'il peut y avoir à voir au petit matin les premiers distributeurs de marchandises qui vont envoyer les choses en ville, et au-dessus, ben, des villas, là en l'occurrence, c'est une villa d'un armateur un peu riche qui bénéficie du soleil avant les autres, on est à 6 heures du matin à peu près, et c'est pas peu de chose pour un armateur riche de voir des gens moins riches que lui regarder comme il a de la chance d'être dans la partie supérieure de l'image. On retrouve enfin les joies de la rue avec différents niveaux, et la rue était l'un des principaux absents de la charte urbaine, puisqu'on avait oublié la rue. La rue est un élément de l'espace public tout à fait nécessaire. Tu passes la suivante. Et vous avez ici le prototype d'un bus probablement parisien qui est très très satisfait d'avoir un appartement avec une vue imprenable sur la vie portuaire. On passe. Le dessus de cet espace disponible a dû être complé parce qu'en fait on n'aime pas, quand on superpose les éléments de la ville, on n'aime pas perdre des mètres carrés. Et donc, sont venus successivement sur ce grand portique des éoliennes, qui étaient d'abord des éoliennes avec des hélices, sont devenues des éoliennes verticales, mais elles ne marchent pas mieux les unes que les autres parce qu'il n'y a pas assez de vent à Strasbourg. Tout à fait à l'est, je passe la suivante, on est. Ah, j'ai oublié celle-là. Au-dessus de ce portique, Nicolas Ehrenschmidt, bien primatologue, bien connu à Strasbourg, a obtenu, par je ne sais quel artifice, d'installer l'Institut de primatologie dans lequel quelques bonobos méritants sont dans une sorte de maison de retraite surmontée par cet hommage à Marino Marini qui est l'artange. On passe à la suivante. La suivante, c'est qu'on en a profité pour faire un hélicor. Cet hélicor permet, dans de très bonnes conditions, de faire des promenades touristiques au-dessus de Strasbourg. Et en plus de ça, les passagers étant installés derrière une verrière, qui est un peu comme un hémicycle, pour les enfants des écoles, c'est épatant parce qu'ils peuvent apprendre la géographie en regardant en avant de l'engin qui vole, ce qui est quand même beaucoup mieux que de regarder par un plan plus latéral. Vision suivante, là vous avez ici, un de ces dirigeables qui atterrit sur le grand portique. Un peu plus loin, voilà, c'est ça. Coïncidence, en 2028, il y a des horticulteurs de la Roberto, si j'en reste encore, des horticulteurs de la Roberto qui ont inventé le Pelargonium XXL. C'est-à-dire, ce n'est rien d'autre qu'un géranium qui fait 6 mètres de haut. Il se trouve a besoin de beaucoup d'eau, et que donc sur le mortier il avait toute sa place, et que d'une façon symbolique, on passe à la suivante, ça a permis d'installer un bosquet dont les lumières rouges sont extrêmement suggestives pour tous les peintres de Strasbourg qui viennent recevoir cette émotion colorée. On passe à la dernière, les bonobos ont enfin découvert qu'on pouvait cuire les pétales de géranium XXL et que ça améliorait grandement la tenue de leur rôle. En même temps, si c'est bien cuit, ça vous permet d'imaginer une cuisine où les flambeaux seraient vermis. Si je vous raconte ça, c'est simplement pour essayer de faire la démonstration que quand vous prenez un outil rationnel, issu du monde du travail, qui est chargé de faire quelque chose, et que vous le confrontez à son contraire, c'est-à-dire de la poésie, c'est-à-dire de la recherche de couleurs, c'est des visions artistiques, vous arrivez à une troisième dimension qui donne sa véritable dimension à la ville. Et il est tout à fait clair qu'en 2040, le rayonnement de Strasbourg doit beaucoup à la création de ce portique et à l'opportunité qu'il y avait d'y accueillir des géraniums géants. Nous allons passer maintenant à un retour aujourd'hui sur un document qui est mon interprétation du schéma de l'acteur. Donc, en 2011, Bernard Reichel, pour une fois qu'il y a un Parisien qui fait un concours à Strasbourg et qu'il réussit, je salue Bernard Reichel comme quelqu'un qui a très bien compris le paysage de cet endroit. Bernard Reichel a fait des bulles reliées par le train et il n'y a pas de grande différence entre le village dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ambiance de proximité dont je parlais tout à l'heure, et les bulles en question. Alors, il faut ensuite donner, mais est-ce que cette vision n'est pas est à l'envers, hein? Elle est pas en fait. Est-ce qu'on peut bon, ben, c'est un effort. Alors, vous avez ici le nord, le pôle de la citadelle, Starlet, la Côte et le territoire qu'on va appeler provisoirement les deux rives ou l'ancien territoire du quartier historique du port. Chaque bulle est un village. Et chaque bulle en tant que village doit recevoir une responsabilité par rapport à la ville dans son ensemble. Ça va même une définition de ce que c'est que le village. Ou le quartier, en tournant le bien. C'est le plus petit élément constitutif de la cité. Il est issu de la géographie en premier qui détermine le décor. Il est issu d'un nombre nécessaire d'habitants pour qu'on puisse parler d'une ville. Et il est investi d'une fonction par rapport à la ville. Le décor ici, c'est le port du Rhin, ça restera pour l'essentiel. L'eau, les bateaux, le fer, le train, et les gros outils portuels. Comme les Allemands, je suis perturbé, on va passer sur le fait qu'il y a la fonction de gare, passagers, etc. En l'occurrence, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des gens qui habitent ce port du Rhin. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un très beau paysage. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'aller habiter au port du Rhin. Moi, je comprendrais très bien qu'un certain nombre de gens continuent à dire que c'est beaucoup mieux à Robertsau. Mais il se trouve que pour moi, le port du Rhin, c'est un lieu vivant qui est beaucoup mieux que la Robertsau. Il faut donc des gens pour y habiter, et habiter, c'est pas simplement dormir. C'est aussi investir l'espace public, c'est être dans la rue, c'est rencontrer des gens de proximité, dans des bistrots de proximité, en sortant d'un magasin de proximité avec des services de proximité. Ce qui n'est d'ailleurs pas très différent, ce que les gens du port, le groupement des usagers du port, a réclamé en son temps, au travers d'un document assez remarquable, qui s'appelle le cahier des espérances, ça date d'il y a à peu près 2 ans, dans lequel, pour ceux qui travaillent pour les actifs de notre société, on demande du transport de proximité, du restaurant de proximité le soir et le matin, des arbres d'ornement, et toute une série de choses qui ne sont bien possibles qu'à partir du moment où il y a des gens pour cotiser au coût de cette affaire-là, donc des résidents. Et on reviendra ultérieurement sur le fait que nous apprendre à vivre ensemble, y compris dans les fumées, les bruits et les diverses nuisances qu'on ne manque pas de me signaler chaque fois que je parle de ça. On peut passer maintenant à la description de ce qui nous a amené ici, c'est-à-dire le quartier dit de la Corée. Alors c'est un quartier qui est complètement inséré dans le schéma directeur, dans la zone portuaire. C'est donc une des bulles pour parler comme Bernard Reichel. C'est un endroit dont le décor est tout à fait fait. Il est décrit par une cour au sud qui elle-même découle de la courbure des voies ferrées qui innervent la zone portuaire. Il est tranché au nord par la route du Cours du Rhin qui, sur ce schéma-là, est largement élargie puisqu'elle est doublée au niveau de son emprise. Il comporte des bâtiments existants d'assez bonne qualité et même quand ils sont moches, ils appartiennent à la mémoire de Strasbourg. C'est vrai qu'en matière d'architecture, 1905, c'est probablement pas le Capocetto italien, mais j'en ai une copie et nous avons de l'affection pour cette vieille-là. Ça comporte 2 entrées. Il y a le Mont Poulot sur le côté est qui marque nettement une frontière, c'est celui qui innerve la gare de Triage, et c'est la ruine de Jules Sandberger que tout le monde connaît avec un peu de nostalgie et qui est complètement à l'ouest. Donc voilà pour le décor, je passe la photo suivante. Normalement il y aurait eu un plan de rien, j'ai peut-être inversé, c'est pas grave. Ah, t'as raison. Bon. Début d'ensemble de ce que ça pourrait devenir, et je reviendrai là-dessus, il y en a 4. On entrera dans le détail après. Sachez simplement que c'est une densité relativement faible, puisque on tourne aux environs de 1,5 de ce qui serait un COS si le COS existait encore, c'est-à-dire moins du double d'un lotissement moderne. C'est un endroit où les activités représentent environ 60% des mètres carrés et le logement environ 40%. Tu passes les 3 images successives, c'est une vue depuis le nord, on a une vue depuis l'ouest, et puis la partie à l'est. Voilà pour l'organisation générale, c'est un quartier qui est complètement saturé par les voies automobiles qui existent, il n'y a donc pas lieu de les introduire au cœur de l'Ido, qui lui-même est transversalement par la trace d'une ancienne voie ferrée qui desservait la Corée à l'époque et qui fait une anecdote dont on va reparler dans très peu de temps. La suite, vous avez l'illustration de ce que je viens de dire avec en jaune le trait donc piétonnier, on voit bien que le cœur de Lido est totalement dévolu aux piétons.